Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il avait raison, Diderot, de dire qu'il vaut mieux écrire de grandes choses que d'en exécuter de petites. Pierre Assouline écrit donc de grandes biographies sur de grands personnages et de grands livres sur les faits qui ont marqué notre société, comme ce roman ambitieux et très réussi. Le paquebot, dont le naufrage en 1932 fait écho au naufrage annoncé de l'Europe qui chante et qui danse inconsciente aux montées du nationalisme. Le paquebot paraît chez Gallimard et Pierre Assouline, les 6 et 7 juillet, nous donne rendez-vous au Festival de la Correspondance à Grignan, où il met en lumière la correspondance de Churchill. Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour Isabelle.
Bon, les vacances sont encore loin.
Oh ben bien sûr, on a le temps, on n'y pense même pas.
Ça vous ennuie les vacances?
Non, je n'irai pas ça, mais ce sont toujours des vacances à lire et à écrire. Donc, ça me rappelle le bureau.
Et bien justement, entrons dans votre bureau. Pierre Assouline, il y a quelques temps, en réouvrant l'un de vos livres, Rosebud, j'ai pu lire ceci dans le dernier chapitre consacré à la difficulté de mettre le point final à un roman. Vous écrivez « On ne finit jamais un roman. Le point final est une illusion. L'auteur laisse s'écrire en lui ce qu'aurait pu advenir. Le lecteur prolonge par son imaginaire ce qui est advenu. » Ben figurez-vous, Claude Lelouch, il y a très peu de temps, m'a livré le même point de vue concernant les films. Il me disait que l'histoire forcément doit se poursuivre au-delà du générique de fin, comme la vie qui ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, on n'écrit plus jamais le mot fin à la fin d'un film. Donc, qu'il s'agisse d'un roman, d'un tableau ou d'un film, il faut bien se garder de conclure une œuvre.
Oui. Rien n'est jamais définitif. Enfin, c'est ce que je me dis à chaque fois. Et je suis content que vous fassiez un parallèle entre littérature, cinéma, peut-être théâtre.
Ouais.
Parce que pour moi, l'art, c'est un tout. Et rien ne m'embête plus que quand des écrivains parlent de littérature dans l'absolu, comme si c'était quelque chose d'à part, d'un monde.
De clos.
Alors qu'il s'agit, surtout, il s'agit d'un art. En fait, j'ai parfois plus de points communs et plus de dialogues avec un peintre ou un cinéaste qu'avec un écrivain. C'est bizarre.
C'est drôle que vous disiez ça parce que on parle de mettre le point final à une œuvre. En ce qui vous concerne, ce sont les livres. Mais puisque vous évoquez la peinture, j'ai appris par exemple que la Joconde était un tableau inachevé.
Mais j'ai envie de dire que tous les tableaux sont inachevés. Et il y a un peintre qu'il savait mieux que personne, et vous avez évoqué un de mes livres, Rosebud, je consacre un chapitre à Bonnard,
ouais.
Peintre merveilleux.
Ouais.
Merveilleux, et Bonnard, il mettait dans la poche gauche de son veston des couleurs chaudes, dans la poche droite des couleurs froides, et dans sa poche de pantalon, un ou deux pinceaux. Et il allait dans des musées où il y avait certaines de ses œuvres, et il laissait passer il se mêlait aux touristes japonais. Il les laissait passer, et une fois que ceci était passé, il était seul,
ouais.
Il poursuivait ses tableaux clandestinement, parce qu'on n'a pas le droit, même si on est l'auteur, de toucher à un tableau dans un musée.
Ouais.
Ça, c'est un délit. Et Degas le faisait dans lui carrément chez les collectionneurs, chez qui il allait dîner, chez ses collectionneurs, et il demandait autorisation de poursuivre pendant le dîner.
La fiction peut s'accommoder de l'inachevé, mais vous, Pierre Assouline, vous vous emparez la plupart du temps de personnages réels, de faits réels, comme c'est le cas avec Le Paquebot, qui paraît chez Gallimard, roman qui retrace l'odyssée du Georges Philippard au cours de sa croisière inaugurale en 1932, croisière qui l'emmena de Marseille jusqu'à Yokohama au Japon, mais s'acheva au retour de façon funeste, comme le Titanic, même si les icebergs n'étaient pour rien dans cette affaire. Donc tout ça a bien eu lieu, là on ne peut pas laisser de fin ouverte.
Ben, c'est difficile puisque le paquebot a coulé après un incendie à bord et que une fois qu'il n'est plus là, c'est fini, l'histoire est terminée. Simplement, il y a des rescapés, il y a 40 morts quand même, 40 disparus, morts
ouais,
bien sûr,
ouais.
Parmi lesquels Albert Londres, le fameux grand reporter.
On en parlera tout à l'heure bien sûr.
Mais pour ce qui est du reste, une fois que la croisière est achevée tragiquement, elle est achevée. Pareillement pour le Titanic, mais vous remarquez une chose, c'est que le Titanic, on en parle encore. Pourquoi? Ça fait 100 ans. Ça fait plus de 100 ans. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est que l'histoire continue, puisqu'il y a eu le film, le fameux film. Mais après le film, il y a aussi le fait qu'il y a des recherches en permanence dans l'épave. Et qu'aujourd'hui, il y a, j'allais dire, une industrie. Moi, dans mes favoris, j'ai un site sur le Titanic, et ce site des amis français du Titanic. est extraordinaire, il est très bien fait, et chaque fois que un chercheur d'épave remonte des objets ou identifie des objets ou a des nouvelles vues sous-marines sur l'épave, c'est mis en ligne. Et là, il y a des commentaires à n'en plus
finir. Parce qu'il y a toujours des chercheurs de trésors.
L'histoire, bien sûr.
Ouais.
Donc, parce qu'un trésor appartient à celui qui l'a découvert. Hein. Mais l'histoire...
Sauf que le Titanic, il repose à combien de mètres
très
sous la surface
très,
de l'eau?
Très profond. Il ne faut pas y aller avec votre tuba et vos palmes, hein, parce que ça ne marchera pas. Et il faut des sous-marins. Il faut des sous-marins pour y aller, et encore. Mais sinon, c'est juste pour vous dire que même cette histoire-là n'est toujours pas achevée.
Bien sûr.
Elle se poursuit.
Mais alors revenons au Georges Philippard. On abandonne là le Titanic, parce que votre roman, Le Paquebot, est d'une richesse absolument extraordinaire, pas seulement par la documentation, mais par l'étude des mœurs, l'étude des caractères, de tous les strates d'une société en fait embarquée pour une croisière de 18 000 km sur un navire flambant neuf, serti de bois précieux, doté de 1077 cabines, première, seconde et troisième classe, dont les 185 cabines en première sont décorées d'œuvres d'art. Il y a 347 membres d'équipage, et puis bien sûr, comme chaque fois avant un naufrage, on a prévu seulement 20 bateaux de sauvetage. Cherchez l'erreur. Alors Pierre Assouline, comment respectez-vous la réalité sans lui être trop fidèle pour que le romanesque trouve sa place dans tout ça?
Ce que je fais, c'est de la mise en scène de l'histoire par les moyens de la littérature. Donc l'histoire n'est pas fictionnelle, loin de là. Tout ça a vraiment existé. Je fais des recherches dans les archives, dans les livres, mais surtout les archives. J'ai retrouvé par exemple toute la liste des passagers, du personnel, donc tous les noms.
Ouais.
Bon, tout ça est parfaitement vrai. Les conditions techniques du naufrage sont parfaitement respectées, les escales, enfin tout ça s'est vraiment déroulé. Mais j'ai inventé 7 ou 8 personnages de fiction que j'ai baptisés à ma façon, à qui je donne une personnalité, un caractère, un passé, une biographie, à ma façon. Et ils sont mouvants dans cette histoire. C'est une façon de faire ressortir l'histoire avec un grand H ou une
Bien
grande
sûr.
H.
Mais ce livre, donc Le Paquebot, il est écrit à la première personne, comme vous étiez son héros en fait.
Oui.
J'ai envie de dire que Jacques-Marie Bauer, c'est vous.
C'est un peu moi.
Voilà,
c'est beaucoup moi.
Oui, Jacques-Marie Bauer, négociant en ouvrage rare de bibliophilie, qui embarque donc pour cette croisière comme une sorte d'agent secret avec deux missions, dont la plus délicate, qui concerne le grand reporter Albert Londres, ne nous sera dévoilée qu'à la fin du livre. Alors, je voudrais savoir, c'est réjouissant d'écrire à la première personne et de s'immiscer comme ça dans les conversations de la haute société de l'époque sur le chaos qui s'annonce avec la montée du nationalisme dans l'Allemagne de 1932, mais montée que tous ne voient pas.
C'est réjouissant parce que, en fait, au départ, moi, mon truc, c'est raconter des huis clos. Ça me passionne parce que je suis claustrophobe. Donc j'adore ça. Donc j'avais raconté autrefois dans les invités.
Ah bon, vous soignez le mal par le mal.
Oui, finalement. c'est ma façon de faire. Il y avait eu un dîner dans un appartement parisien, dans les invités. Puis après, il y a eu Lutetia,
oui,
qui était entièrement dans un palace.
Oui.
Ensuite, Sigmaringen, qui était entièrement au château de Sigmaringen. Et puis là, une croisière. Parce que pour moi, une croisière, c'est vraiment un huis clos. À l'époque, ça dure des mois. Hein. Ça dure 3-4 mois, une croisière.
Oui,
je rappelle que c'est la ligne Marseille-Yokohama.
18 000
kilomètres. Et retour.
Oui.
C'est-à-dire avec des escales à Djibouti. Enfin, pas Djibouti, parce que c'est un coupe-gorge, donc on reste à bord. Mais à Ceylan, Colombo. Et puis, évidemment, Saïgon, Hanoï, Shanghai. Et puis, Yokohama, en principe. Tout ça, c'est l'époque des colonies, de l'Indochine,
oui,
française.
On n'y va pas en avion.
Non, pas du tout.
Voilà.
Non, c'est la grande époque. C'est la grande époque des croisières et des paquebots.
Oui.
Il y a énormément de compagnies maritimes qui se livrent à une rivalité extraordinaire et qui rivalisent dans la beauté.
Voilà.
Dans la beauté de la décoration.
Et qui, très nombreux, sombrent d'ailleurs. Vous dites d'ailleurs qu'il faut du courage ou de la conscience pour monter sur ces paquebots à l'époque.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop le choix, puisqu'il faut pour bouger. Et si on veut aller loin. Parce que parmi les passagers, vous en avez qui simplement sont en villégiature,
oui,
mais vous avez aussi des gens qui sont là pour des raisons d'affaires. Ils vont voir leur filiale en Indochine ou ailleurs, ou en Chine.
Alors, vous dites, partir, c'est rompre, fût-ce provisoirement, même si on n'échappe jamais à soi-même. Mais une croisière, c'est quand même très singulier parce que ça définit un univers clos, posé sur l'immensité. D'ailleurs, vous écrivez cette phrase, je la trouve formidable, « La croisière a quelque chose de toxique, mais d'une toxicité douce, molle ». apathique. Elle nous plonge dans l'ivresse d'un opium qui ne dit pas son nom, fait de houle et d'embrun, de mondanité et de conversation, de roulis et de tangage, et de cette mise hors du temps qui dispense de regarder sa montre, sinon d'en posséder une. En fait, tout ça, c'est à la fois excitant et lénifiant. Une croisière, c'est joyeux et c'est mélancolique.
C'est les deux. Vous avez raison. C'est les deux parce que, bon, faut pas oublier, quand il y a la traversée de l'océan Indien, c'est 8 jours sans voir la Terre. C'est 8 jours sur une mer très très calme. Moi, ça m'a fait penser, ça a l'air bizarre, hein, mais au lac Léman. Sur le lac Léman, les habitants, les riverains, parlent de la mole du lac. La mole du lac, c'est une sorte de neurasthénie qui s'empare des Suisses, qui regardent en permanence le lac, et ça, c'est tellement calme, il ne se passe tellement rien.
Comme les Tahitiens qui ont le fiou en regardant le Pacifique, définitivement bleu.
C'est une sorte de mélancolie, mais qui vous rend apathique, hein, et neurasthénique. Alors, il y a un peu de ça dans cette traversée, mais évidemment, les passagers et puis mon narrateur s'organisent, parce qu'eux, ils ont l'habitude des croisières, donc ils font des tas de choses. Ils jouent aux échecs, ils jouent au bridge, ils font un salon de conversation. Il y a du tennis, il y a une piscine, grande piscine. Donc tout est fait pour qu'on ne s'ennuie pas.
Pierre Asseline, pour ne pas entamer la jubilation de la lecture, bien sûr je ne vais pas révéler pourquoi le Georges Philippard a sombré au cours de son retour en quittant l'océan Indien, alors qu'il avait embarqué à Saïgon le grand reporter Albert Londres, qui ramenait un reportage explosif après avoir enquêté dans l'Asie justement du début des années 30. Il y a 30 ans, vous avez consacré une biographie à Albert Londres. Alors, en 1930... Disait-il vraiment, ce que vous rapportez dans votre roman, Le Paquebot, qui paraît chez Gallimard, disait-il vraiment que la Chine n'était que chaos, éclat de rire devant les droits de l'homme, mise à sac, rançon, viol, avec un seul mobile, l'argent, un seul but, l'or, une adoration, la richesse. Il décrivait la Chine non comme un pays, mais comme un coffre, Albert Londres.
Oui, alors d'abord, il faut bien vous dire une chose, Albert Londres était très drôle, même dans les situations tragiques. Et évidemment, tout ce que je lui prête comme propos, il l'a vraiment dit et même écrit. Sur la Chine, on peut le vérifier soi-même, ces articles ont été réunis dans un livre qui s'intitule « La Chine en folie ». Ouais. Et c'est vraiment très drôle. C'est même cruel parfois. Mais l'extrait que vous avez lu, ben, en fait, c'est 200 pages comme ça. C'est dans la même encre. Moi, je me tords de rire quand je relis ce qu'il écrivait, parce que c'est d'une ironie, d'une cruauté terrible.
Alors, Albert Londres a disparu au cours de ce naufrage que vous décrivez dans ce roman, Le Paquebot. Concernant son tout dernier reportage, la malédiction est allée jusqu'à son terme puisque ses écrits qui avaient été sauvés du naufrage ont disparu dans l'accident de l'avion qui les ramenait en France et qui s'est écrasé, lui, l'avion, avant d'atteindre Marignane. C'est fou.
Ça paraît incroyable.
Vous n'oseriez pas écrire ça dans
un
roman.
Et non, c'est la réalité. Un couple qui était à bord de ce paquebot, qui nageait très très bien, qui était très sportif, donc qui s'en sont très bien tirés, et qui sont rescapés, un couple de gens très, très, très lancés dans la vie parisienne, jeunes, hein, 35 ans, amis d'Albert Londres, dans la folie du naufrage et de l'incendie, ont réussi à sauver sa mallette, son cartable, contenant cette fameuse série d'articles qui disait explosif.
Voilà, sur le et trafic que tout d'opium. Le monde attendait
en
France.
Tout le monde attendait, mais sans savoir ce qu'il y avait dedans. Eux savaient, et ils ont ramené ça. Alors, le paquebot a ramené les 700 rescapés, sur la terre ferme jusqu'à Brindisi, en Italie, dans le sud de l'Italie. Et là, on leur a dit, on va prendre un nouveau paquebot français, va venir vous chercher pour vous ramener à Marseille. Mais le patron de l'Excelsior, qui était le grand journal parisien, ouais, a téléphoné à ce couple en disant, on ne peut pas attendre, on a besoin de ces articles, on vous envoie un avion, il n'y a que 2 places pour vous, avec le meilleur pilote français actuel et le meilleur mécanicien sur la place. Et comme ça, vous les ramenez tout de suite. Et cet avion, au-dessus de la frontière franco-italienne, s'est crashé.
Les carabiniers... Il n'est pas interdit de penser à un complot. Hein.
Les carabiniers ont répliqué aussitôt. La mallette a disparu.
Voilà.
Avec les articles, on n'a jamais pu savoir ce qu'il y avait dedans.
Pierre Asseline, pourquoi n'avez-vous pas abordé de front la littérature et vous êtes-vous frotté d'abord au milieu du journalisme?
Mais parce que je rêvais d'être journaliste.
Pas écrivain?
Pas du tout. Alors, je ne suis pas du tout le genre de mes confrères écrivains qui vous disent qu'à 5 ans, ils avaient lu tout Stendhal. Hein. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, j'avais des lectures de jeunesse, j'adorais lire, mais c'est tout. Mais je ne me suis jamais rêvé écrivain, mais je rêvais d'être Albert Londres. Quand j'avais 18 ans, je me disais, il faut que je sois Albert Londres ou rien. Donc je me suis mis à le lire comme un fou, et puis surtout à faire mes débuts dans le journalisme. Et ma fierté, c'est que longtemps, longtemps après, aujourd'hui, je suis toujours journaliste.
Bien sûr.
Et non, mais ça, j'en suis très fier. Oui. C'est un métier
magnifique.
Mais
peut-être aujourd'hui, le journalisme, hélas, se fait-il sans vrai journaliste.
Ben, de moins
c'est
en
la
moins.
Dérive.
De moins en moins, les supports sont différents. Voilà. Mais c'était déjà compliqué de mon temps quand j'ai commencé. Je suis pas sûr qu'il y ait eu du nouveau. Parce que j'ai travaillé dans des journaux qui étaient dirigés par Robert Hersan. À l'époque, oui, c'était lui le diable.
Ah oui. Parce que vous avez travaillé au Quotidien de Paris. Vous avez travaillé...
De Philippe Tesson.
Voilà, à François. Mais alors, si on remonte vraiment la source, vous avez débuté dans le journalisme parce que vous étiez passionné, paraît-il, de photographie.
Voilà, j'ai commencé comme photographe plus ou moins amateur, mais je faisais tout moi-même à 16 ans. Et en vendant mes premières photos à Paris Match pour les tout petits encarts, choses comme ça.
À l'âge de 16 ans déjà, vous faisiez ça ?
Oui, oui, j'adorais ça. Je n'ai jamais cessé non plus de faire des photos. Simplement, du jour où j'ai commencé à écrire des articles, j'ai laissé de côté la photo. Mais j'ai toujours fait des photos pour moi. Je continue à en faire. Et mon grand bonheur, c'est que mon idole en tant que photographe...
Cartier-Bresson.
Quand j'avais 20 ans,
voilà,
c'était Cartier-Bresson.
Voilà, donc vous avez fait la biographie.
Et je l'ai connu très longtemps après. On est devenus amis, on était très liés pendant une dizaine d'années. Et j'ai eu le bonheur d'écrire non seulement sa biographie, mais de lui consacrer un documentaire sur Arte. Et pour moi, ça a été, ça reste mon photographe de chevet.
Une apogée. Donc on peut dire, Pierre Assouline, que c'est le pouvoir de l'image qui vous a donné le goût du récit. C'est le premier voyage qu'on fait, la photographie.
Mais la photographie et parallèlement la peinture. Je barbouillais, mais surtout j'allais voir beaucoup de peintures dans les musées et les expositions, très jeune. Donc, je suis autodidacte. Hein, donc je me suis formé, j'ai formé mon regard et il y a eu la musique aussi. Pour moi, c'est les arts. Donc pour moi, c'est un tout. Et il y a des passerelles entre tous ces arts. Si on ne voit pas ça, on passe à côté de l'essentiel.
Pierre Assouline, vous êtes né à Casablanca. Le Casablanca du début des années 50, avec sa douceur de vivre sous un soleil de feu. Vous dites d'ailleurs, mon enfance marocaine, c'est ma matrice.
Bien sûr. Bon, de toute façon, l'enfance, c'est la matrice de tout le monde, je suppose. Sauf que la mienne a été très heureuse, avec des parents aimants, dans un pays de cocagne, pays magnifique. Les Marocains sont des gens que j'adore, qui sont un peuple accueillant, dont les traditions, les rituels sont... Enfin bon, j'aime tout dans ce pays. Et évidemment, c'est la fameuse phrase de Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays. Mmh. Et ben, mon pays et mon enfance, ça a été le Maroc, bien sûr. Donc il y a une nostalgie.
Votre père faisait le commerce du sucre et du café, donc, au Maroc. Vous étiez un enfant aimé, choyé, dans un pays qui, effectivement, avait pour vous les saveurs du paradis. À quel âge vous avez dû quitter en famille le Maroc pour la France ?
12 ans, 11-12 ans, pour rentrer en 6e.
Donc là, c'est une césure terrible.
C'est une césure terrible, parce que passer de Casablanca ensoleillé presque toute l'année...
À Paris ?
Et la plage et la piscine tous les week-ends, pendant presque toute l'année... Se retrouver à Paris sous la pluie, dans la cour d'un immense lycée, Janson de Sailly, ça fait un choc. Ça fait un choc, on n'a pas trop l'habitude. Bon, ben on s'y fait, et puis voilà, c'est un changement de vie, tout simplement.
Mais il est surprenant de vous entendre dire que c'est la pratique de l'aviron, comme capitaine d'équipe à la barre, qui a structuré votre caractère et votre mental. Alors là, vous aviez, c'était en France, vous avez commencé à quel âge ?
À 16 ans. Je vais vous dire, moi j'ai fait des études supérieures, secondaires, histoire et langues eaux, que j'ai abandonné au bout de 2 ans et demi. Je n'ai aucun diplôme. Parce que je suis parti voyager quelques mois, et quand je suis revenu, ça me paraissait dérisoire, tout ça. Après tout ce que j'avais vu et vécu, je n'y croyais plus. Donc, je suis autodidacte sur ce plan-là. Mais, parallèlement, à partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire des sports. Pas seulement un seul, mais des sports, et je n'ai jamais cessé. Et je me suis rendu compte, avec le recul des années, que je dois tout ce que je suis, ou presque tout ce que je suis, à la pratique du sport. J'ai commencé,
mais
comme vous l'avez dit...
en particulier de l'aviron.
Voilà, c'est exactement ce, à 16 ans, je me suis inscrit à un club d'aviron, parce que voilà, je les voyais passer sur la Seine, ça me fascinait. J'étais trop jeune, donc ils m'ont dit « tu seras barreur ». J'étais léger et petit, un peu rachitique, donc tu seras barreur. Et pendant un an...
Mais il faut de l'autorité. L'assurance pour être le barreur.
Je n'avais ni l'un ni l'autre. Et je leur ai dit, mais je ne vais pas engueuler des gens de 25 ans quand même, qui sont tous des grosses baraques comme ça. Et ils m'ont dit, de toute façon, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Et ils m'ont assis à la place du barreur pour éviter de rentrer dans les péniches, etc., sur la scène. Et je me suis jeté à l'eau, si je puis dire. Et j'ai appris, c'est là que j'ai appris à avoir un peu d'autorité, à engueuler, et ça m'a servi pour la suite, dans les journaux où je travaillais, et à dire non.
C'est important dans la vie de savoir dire non. Mais alors, la littérature, Pierre Assouline, voilà, parce que c'est par des biographies que vous l'abordez, la littérature en 83-84. D'abord, celle de Marcel Dassault, puis celle de Gaston Gallimard. Vous commencez par des biographies comme s'il était... Trop tôt encore, peut-être, pour mettre en lumière vos désirs profonds de romancier. Vous vous effaciez, en fait, derrière la réalité d'homme spectaculaire.
C'est exactement ça. Je n'osais pas.
Vous n'osiez pas.
Je n'osais pas. Et puis je disais tout simplement, les livres que j'écris, les biographies, ce sont des livres de journalistes, plus ou moins historiens, mais de journalistes. Et mon éditeur me disait, mais est-ce que je peux marquer au dos journaliste et écrivain? Et je lui disais, non, je ne suis pas écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui fait de la fiction, qui est dans le roman, mais pas dans la biographie ou dans l'histoire. Et quand j'ai publié mon premier roman, ça devait être mon 15e livre,
oui.
J'ai dit, là, vous pouvez l'écrire, écrivain, parce que c'est ça, l'écrivain.
C'est-à-dire, il y a eu 14 livres qui n'étaient pas des romans. Oui. Vous n'osiez pas faire le grand saut.
Mais surtout, je ne voulais pas, parce j'estimais que je n'étais pas légitime comme écrivain, tant que je n'avais pas écrit de fiction. C'est peut-être un peu bizarre, un peu bête, mais je le ressens profondément.
Alors, des biographies, vous en avez écrites beaucoup. Effectivement, celle de Gaston Gallimard, d'Albert Londres, de Simenon, d'Hergé, le dernier des Camondeau, Cartier-Bresson. Vous adorez vous faire enquêteur. Vous, qui aimez tant la plume de Proust, pas de biographie de Marcel Proust.
Je voulais la faire, et puis je me suis ravisé au bout de 2 mois.
Pourquoi ?
Parce que celle de Jean-Yves Tadié était annoncée. Je me suis dit, bon, il n'y a pas question de... Voilà, c'est le grand spécialiste, là, son livre est fini, il sort dans 2 mois, je ne vais pas venir après, c'est ridicule.
Bon, alors, juste avant de faire une pause, Pierre Assouline, j'ai appris que c'est à vous qu'on doit la rue Gaston Gallimard, dans le 7e arrondissement de Paris.
C'est une conversation... Entre le maire de la Noé et Antoine Gallimard, le patron d'édition Gallimard,
oui.
Que j'écoutais parce qu'on inaugurait la place René Char, donc au bout de la rue du Bac. Et de la Noé dit à l'éditeur, mais ça serait bien une rue Gaston Gallimard. Et puis en plus, ici, il y a très peu de numéros, dans la rue Sébastien Botin. Et Antoine Gallimard a dit, mais bien sûr, ce serait formidable. Bref. Et au bout d'un an, je lui demande où ça en est où. Il me dit, écoute, je comprends pas, ça bloque à la mairie. Si tu connais quelqu'un, je dis, ben oui, je connais quelqu'un qui est au cadastre. Donc je suis allé le voir. Et là, ils m'ont dit, c'est un peu compliqué parce que le maire ne le savait pas, mais vous savez, Gaston Gallimard, il a un passé un peu... Je lui dis, mais attendez, quel passé? Moi, je suis son biographe, alors ça m'intéresse.
Et que vous a-t-on appris?
Et on me dit, ben écoutez, il paraît qu'il a été un collabo. Je lui dis, attendez, vous ne connaissez pas son histoire, là, parce que ce n'est pas du tout ça. Toute l'édition française et parisienne a été sous le même régime pendant l'occupation.
Oui.
Gaston Gallimard, comme Bernard Grasset, comme tous les autres. Donc je leur ai raconté l'édition sous l'occupation et le rôle de Gaston Gallimard. Et une fois que j'ai passé 1 heure ou 2 à leur raconter, ils m'ont dit, bon, on comprend mieux.
C'est formidable, parce que c'était le biographe de Gaston Gallimard qui leur faisait le récit de la vie de Gaston Gallimard en direct.
C'est pas normal, les choses qui ne vont pas, il y a un blocage. Et ce blocage, c'était ça. C'était une réputation, mais qui était usurpée.
Donc que vous avez effacé, et maintenant,
et la suite de
on
ça,
a...
On a inauguré, quelques mois après, la rue Gaston Gallimard, donc là où le seul immeuble, c'est celui des éditions du même nom. C'est formidable.
C'est formidable. Pierre Assouline, savez-vous lequel de vos amis a un jour confié à la presse, alors qu'un journaliste évoquait votre côté « never complain, never explain », c'est-à-dire toujours sous contrôle, eh bien, qui donc lui a répliqué « Ah mais Pierre Assouline, c'est un fou déguisé en homme normal, un être pétri de secrets, profondément énigmatique. »
Aucune idée.
Aucune idée.
Non.
La main sur le buzzer, ben c'est Alexandre Jardin.
Ah oui.
Qui dit effectivement que vous êtes déguisé en homme normal, mais que vous êtes un être pétri de secrets profondément énigmatiques.
Bon, on l'est tous.
C'est
plus
pas
ou moins.
Faux, plus bon, ou moins.
Oui, mais je le suis effectivement, oui. Par pudeur aussi, et puis parce que je ne suis pas transparent non plus, mais je pense qu'on l'est tous, plus ou moins. Vous savez, même les gens qui parlent beaucoup, ce n'est pas mon cas, mais ceux qui parlent énormément ne se livrent pas pour autant.
Bon, Pierre Assouline, est-ce si facile d'être à la fois l'un des jurés qui décide du prix Goncourt et un écrivain qui, chaque année, publie une œuvre? Parce que vous êtes sur les deux rives en même temps.
Oui, mais ce sont des choses distinctes. Alors, pour bien les distinguer, et qu'il n'y ait pas de problème, je ne publie mes livres qu'au début de l'année. Pour ne pas me mettre en concurrence avec des auteurs en paraissant, par exemple, au mois de septembre.
D'accord, parce que j'allais vous dire, j'imagine que tant qu'on est juré du prix Goncourt, on ne peut pas recevoir le prix Goncourt.
Ah ben non, ça non.
Voilà.
Je suis délivré de cette angoisse.
Mais de ce bonheur aussi, auquel vous pourrez prétendre non. Si vous décidez de ne plus être juré
Oui, peut-être, mais ça m'étonnerait. Non, mais j'ai été sur les listes Goncourt à deux reprises, je crois,
oui.
Pour deux livres différents.
Lesquels autre...
ben, pour La Cliente, mon premier roman,
oui.
Et pour Lutetia.
D'accord.
Jusqu'à la fin, et puis voilà, ça n'a pas été
moi. Et puis en 2012, eh bien, vous avez rejoint l'Académie Goncourt.
Oui, ça fait 10 ans. Et j'en suis ravi parce que c'est une bande d'amis, on s'amuse bien, on s'engueule beaucoup.
C'est vrai.
Ce qui est une très bonne chose parce qu'ils ont chacun une telle personnalité qu'on est d'accord sur rien et tant mieux.
Par exemple, il paraît que ça a été assez musclé, la dernière réunion du Goncourt pour justement le décerner à Hervé Le Tellier, l'anomalie.
Oh,
ça a été un peu rude.
Oui, mais ça allait à chaque fois. Mais là, pour l'anomalie, quand même, on était tous emballés par le livre. Hein. Mais vraiment, on était tous emballés. C'était tellement un truc. Mais je peux vous dire une chose, personne n'imaginait le destin de ce livre. Parce que quand même, 1,5 million d'exemplaires,
ouais,
ça,
ouais.
Je veux dire, c'est rarissime. En 100 ans ou 110 ans de Goncourt, il n'y a que 3 livres sur 110. Il n'y a que 3 livres
alors,
qui ont dépassé 1 million d'exemplaires.
Proust à l'ombre...
Non, pas du tout. Pas
des
du
jeunes
tout.
Filles en fleurs, pas du tout.
Hervé Le Tellier, l'anomalie de Le Tellier, L'amant de Marguerite Duras.
Ah.
Et un livre dont vous n'allez pas le soupçonner, puisqu'il est très oublié aujourd'hui, mais qui a dépassé 1 million d'exemplaires, L'épervier de Maheu de Jean Carrière.
Wow.
Un roman rural magnifique.
Si on écrit, c'est qu'on veut laisser une trace. Les écrivains se piquent plus que les autres de postérité, Pierre Assouline.
Les écrivains comme tous les artistes.
Vous bottez en touche.
Comme tous les sculpteurs. Je ne pense pas qu'ils soient tous obsédés par la postérité, vous savez. Si vous demandez à un écrivain, à des écrivains, pourquoi écrivez-vous, vous aurez 10 réponses différentes.
Bon, Pierre Assouline, début juillet, précisément le 6 et 7 juillet, vous nous donnez rendez-vous au Festival de la Correspondance de Grignan, dans la Drôme provençale. Grignan, d'ailleurs, est à la ville de la marquise de Sévigné, donc naturellement ce festival célèbre l'art épistolaire en particulier et la littérature en général. Et vous nous y attendez donc pour la 26e édition qui invite à des lectures aussi bien Antoine Duléry, Annie Dupéret, Michel Faux, Jean-Hugues Anglade, Benabar, Didier Sandre de la Comédie Française, que François Rollin, Pierre Palmade ou Marie-Christine Barrault. Mais vous, Pierre Assouline, de quelle façon allez-vous vous intégrer au Festival de Grignan cette année?
Alors j'ai été il y a une dizaine d'années, j'ai beaucoup apprécié ce festival qui est très original, hein, puisque ce sont des correspondances qui sont célébrées. On m'a demandé une première fois de parler de mes livres en général et du paquebot en particulier, ce que je ferai face au public.
Ça, c'est le 6 juillet, je crois, au cours d'une rencontre organisée à Grignan à partir de 14h.
Voilà. Et la deuxième chose, qui est la plus importante, pour m'inscrire vraiment dans la correspondance, on m'a demandé d'adapter, pour le théâtre, la correspondance entre Winston Churchill et sa femme Clémentine.
Oui.
Et en fait, c'est moi qui ai proposé, parce qu'on m'a dit, on aimerait que tu fasses quelque chose de théâtral pour nous, à partir d'une correspondance. À qui tu penses? Alors j'ai pensé à Churchill, pourquoi? Parce que je suis un fan de Churchill, parce que je lui ai consacré 20 heures d'émission sur France Culture il y a longtemps, une grande traversée de l'été, mais à l'époque ça faisait 20 heures, ce qui est énorme pour un programme radio.
Oui.
Et puis parce que j'ai écrit beaucoup de choses sur lui, des articles notamment.
Mais alors c'est une correspondance en fait qui va, on va dire, de quelle à quelle année?
Ça commence au début du siècle. Quand ils se rencontrent la première fois à un bal, Et ça se termine avec leur mort dans les années 60-70. Ils sont pas morts en même temps.
Mais enfin, c'est prodigieux d'avoir pu garder toutes ces lettres.
Oui, oui. Alors, elles ont été publiées. Moi, je les avais lues en anglais déjà. Puis ça a été ensuite publié par Talandier en français. C'est passionnant parce que, évidemment, il y a de la politique, il y a de l'histoire, mais oui. Il y a beaucoup de choses
mais alors, qui sont de vie quotidienne. Le travail d'adaptation d'une correspondance de Churchill consiste en quoi? Puisqu'il ne s'agit absolument pas d'une traduction.
Non,
mais
alors,
l'adapter.
L'adapter, ça a été d'abord faire un choix. Parce qu'il y a des milliers de lettres, il faudrait des milliers d'heures pour si on gardait tout ça. Donc mon choix a consisté à tout lire, enfin à tout relire, et à conserver ce que je voulais par rapport à une idée de leur relation. Et je voulais mettre en valeur deux choses, la relation intime entre cet homme et cette femme, à travers les événements historiques, mais une intimité. Donc il parle aussi du potager, du chien, de la peinture, puisqu'il faisait de la peinture.
Comme il parle de la guerre.
Et comme il parle de la guerre, du changement de gouvernement et de politique. Ça, c'était important. Mais il y a un fil rouge.
C'est...
Le fil rouge, début à la fin, c'est ce que Churchill appelait mon black dog. Son black dog, c'est sa dépression. C'est-à-dire que régulièrement, il ressentait comme un coup dans la nuque. Et ça lui minait le moral pour la journée ou pour des jours et des jours. Et il disait, mon black dog me tombe dessus. Et là, il rentrait dans ce qu'on appelle très communément, et c'est tout à fait ça, une dépression.
Et c'est là qu'intervenait sa femme, qui lui répondait...
Qui elle-même était assez
dépressive. Était sujette à ça.
Oui.
Mais alors, expliquez-moi, parce qu'on écrit à quelqu'un qui n'est pas à vos côtés. Donc, s'il y a correspondance, ça veut dire que...
Ils n'ont pas arrêté de voyager. Non, pas arrêté.
Mais pas ensemble, parce que sinon on se parle,
oui,
on ne s'écrit pas.
Mais pas ensemble, parce que n'oubliez pas que lui a été ministre je ne sais combien de fois.
Ouais.
Il a été, donc ça c'est des voyages aussi. Ensuite, il vivait souvent à Londres en tant que Premier ministre pendant la guerre et ministre tout court.
Et elle était dans la campagne anglaise.
Et elle était, ils avaient une propriété à Chartwell, magnifique, où elle a passé beaucoup de temps. Donc, et parfois c'était l'inverse. Lui était à Chartwell pour écrire ses mémoires, ses livres et tout ça.
Oui.
Et elle était en croisière.
On ne correspond plus aujourd'hui, Pierre Assouline.
Bon, en tout cas, pas
on s'envoie des SMS.
Pas comme ça.
C'est pathétique.
Ou des courriels.
Oui.
Donc il y a quand même des correspondances, si, hein. Mais on ne correspond pas comme ça. C'est-à-dire, cela dit, il trichait. Parce que vous savez, Churchill passait ses matinées dans son lit. Il disait, c'est pas parce qu'on se réveille qu'il faut se lever. Et donc, toutes ces matinées, il était dans son lit avec un cigare à 8 heures du matin dans la main gauche.
Pas un whisky.
Un whisky
Mon
dans
Dieu.
La main droite et une batterie de secrétaire autour de lui.
Qui prenait en note.
Et
c'est ça.
Il dictait des lettres, il dictait des mémoires, il dictait des articles pour des journaux. Il n'arrêtait pas, il donnait des ordres. Il passait toutes ces matinées, si possible, comme ça.
Alors, Pierre Assouline, ces correspondances de Churchill que vous avez adaptées, cette correspondance sera lue et interprétée sur scène à Grignan le 7 juillet à 19h par Bernard Mabille, observateur depuis longtemps de la chose politique, et par Evelyne Bouil. Vous n'avez pas mis votre grain de sel dans la mise en scène?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Bon. Vous arrive-t-il de recevoir par la poste des manuscrits qui vous sont directement adressé, Pierre Assouline?
Alors, heureusement, c'est plus tellement par la poste parce que ça serait une catastrophe. Je reçois déjà 10 livres par jour. Alors, si en plus il y avait des manuscrits.
Vous en recevez 10
jour. Oui. Alors, en ce moment, c'est la saison, je peux vous dire, puisque c'est bientôt la rentrée littéraire. Mais je reçois beaucoup en pièce jointe dans des courriels de gens qui, très gentiment, me disent je vous admire, etc., etc. Et j'aimerais avoir votre point de vue. J'ai écrit un roman. Mais ces gens n'imagine pas un seul instant le travail que ça suppose de lire un manuscrit. C'est, au bas mot, entre 2 et 3 jours consacrés uniquement à ça. Je ne peux pas faire ça.
Vous en recevez 10 par jour.
Non, pas des manuscrits, hein, des livres.
Des livres.
Mais ça, je parle des manuscrits, c'est-à-dire des gens qui ont un projet, qui n'ont jamais rien publié et qui voudraient un coup de main, un avis, une opinion. Mais c'est un travail, c'est un vrai travail. Et puis je ne suis pas éditeur.
Alors que leur répondez-vous?
Je leur réponds que je ne suis pas éditeur. Et que je ne peux pas, malheureusement, m'occuper de les envoyer, enfin, ou leur donner un avis critique sur leur manuscrit, parce que je ne peux pas passer 3 jours, comme ça, à me consacrer à ça.
Pierre Assouline, vous croyez au génie méconnu? Vous croyez à celui qui laisse reposer dans un tiroir le roman d'une vie,
non,
qui aurait fait la fierté d'un éditeur?
Non, je ne crois pas au génie méconnu pour une bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de canaux de diffusion que, d'une manière ou d'une autre, quand on a une œuvre à faire connaître. On la fait connaître bien ou mal, mais on la fait connaître. Parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition, il y a l'auto-édition aussi qui existe, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a des moyens de se faire connaître, même si on n'a pas accès aux grands médias. Donc, il y a eu peut-être des génies méconnus à une époque et encore. On n'a pas trouvé d'œuvres cachées et qui soient sorties un siècle après et qui aient été totalement méconnues. Ça, c'est rarissime. En tout cas, en littérature, je n'en vois pas. Il y a peut-être eu, mais je n'en ai pas à l'esprit. Et aujourd'hui, encore moins. On vit dans l'immédiateté aujourd'hui. Donc, c'est ici et maintenant. Donc, quelqu'un qui a une œuvre, il veut tout de suite la faire connaître.
Pierre Assouline, est-ce que les romans, parus depuis une vingtaine d'années, dirons-nous, est-ce que ces romans-là ont la vie longue? Ou bien est-ce que le phénomène pervers du zapping concerne aussi la littérature?
Ce n'est pas du zapping, c'est le fait que l'espérance de vie d'un livre ou d'un film est devenue très brève. C'est-à-dire que si un roman n'a pas tout de suite un certain succès en librairie, au bout de 3 semaines, il disparaît.
Au bout de trois semaines, il disparaît.
Et quand je dis 3 semaines, je suis sympathique parce que vous avez des livres qui ne sont même pas sortis des caisses. Parce que les librairies ne sont pas extensibles à souhait. Les murs ne peuvent pas être reculés. Il va y avoir encore 500 ou 600 nouveaux romans, dont presque 85 ou 90 premiers romans. Il faut pouvoir les mettre quelque part. Donc il y a des choix à faire. Et ensuite, dans ceux qui sortent, s'il n'y a pas tout de suite une sorte d'emballement médiatique ou autre, qui pointe l'attention du public sur tel ou tel livre, disparaît très vite. Et si il n'a pas de succès, eh bien, il ne sera pas en poche.
Et même s'il a du succès, un écrivain, en fait, un roman doit s'affranchir des phénomènes de mode parce qu'un livre ne vaut que s'il survit à son époque, c'est ça?
Oui, mais ceux-là sont très peu nombreux. Hein.
Très peu nombreux.
Ben oui, et
sur les 700 qui paraissent chaque année.
Mais vous savez, quand vous regardez la liste même, même si vous regardez les listes des prix littéraires, l'ensemble des prix, hein, pas que le concours, vous serez effaré par les noms qui ne vous disent absolument rien, parce qu'ils ont complètement disparu des circulations. Je ne parle même pas des classiques qu'on ne lit pas beaucoup aujourd'hui, comme Malraux, Gide et quelques autres, qui sont vraiment des classiques modernes. Mais je parle de gens dont le nom ne dit plus rien à personne.
Vous avez été très en colère, Pierre Assouline, quand, en 2016, le prix Nobel de littérature a été décerné à Bob Dylan. Bob Dylan, icône du folk rock en Amérique et auteur de chansons comme Mr. Tambourine Man ou Like a Rolling Stone. Vous avez déclaré d'ailleurs que c'était un bras d'honneur fait à la littérature.
Oui, je n'en veux pas du tout à Bob Dylan parce que je suis un de ses admirateurs. Et ça peut paraître paradoxal.
J'ai presque entendu admirateur.
Non, admirateur, pardon. Je suis un admirateur de longue date, mais ce n'est pas la question. C'est que c'est de la chanson. La chanson n'est pas nécessairement de la poésie. Les membres du jury du comité Nobel ont été très très mal inspirés par cet effet de mode qui consistait à couronner Bob Dylan. Et ça a été très mal pris par beaucoup de gens. Et ça a été le début de la décadence du jury Nobel. Parce que 2 ans après, ils ont explosé en vol à cause d'une affaire de scandale sexuel qui a fait que l'Académie a été dissoute. Mais bon, je reviens à Bob Dylan. C'est un immense chanteur.
Mais ce n'est pas un poète. Vous dites au mieux, c'est un parolier.
C'est un tout. C'est un créateur, c'est un grand artiste. Mais le prix Nobel de littérature est destiné à récompenser et à distinguer une œuvre romanesque ou poétique qui se traduit par des livres. Ça fait quand même plus de 100 ans que ça dure comme ça, par des livres. Là, il n'y a pas de livres. Il y a des chansons, il y a des disques, mais il y a d'autres académies pour ça. Je leur en veux, pourquoi? Au Nobel, pas à Dylan. Je pense que Dylan, c'est bien fichu de leur tête. Hein. Parce que non seulement il n'a pas soulevé le téléphone quand les Nobel, traditionnellement, téléphonent au lauréat pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas répondu au téléphone. Et ça a duré plusieurs semaines. Il n'a jamais répondu au téléphone. Ça, c'est une chose. Et après, ils se sont dit, il est comme ça, c'est un artiste. Et puis, ça a continué pendant 6 mois. Ils n'ont pas pu le joindre. Ils ont joint son agent, mais pas lui.
Non.
Oui. Et à un moment, ils ont dit quand même, il faut venir à Stockholm.
Chercher votre prix Nobel.
Surtout faire un discours devant le roi et devant tout le monde en smoking.
Et il a
refusé. Mais il a envoyé un enregistrement avec un discours. Et on lui a dit à un moment, vous savez, au mois de juin, il y a une prescription. Si le 31 juin, vous ne venez pas à Stockholm, votre chèque, 1 million d'euros.
Hein,
votre chèque, vous ne pourrez pas le toucher. Il est venu une journée avant le jour de la prescription prendre son chèque.
Oh, mais c'est affreux.
Non, mais c'est ça que j'appelle
un bras d'honneur. En même temps, en décernant à Bob Dylan le Nobel de littérature, eh bien, ils lui ont tendu le bâton pour se faire battre.
Eux, oui, mais je trouve qu'ils ont été ridicules. Et ce que je leur reproche, c'est que ça faisait 20 ans que des écrivains ou des poètes américains, et Dieu sait qu'il y en a aux États-Unis, n'avaient pas été récompensés. La dernière fois, c'était donc Toni Morrison. Et puis après, plus rien. Et ça faisait 20 ans qu'on disait, quand même, regardez, Philip Roth, c'est une œuvre exceptionnelle, mais aussi Cormac McCarthy, mais aussi Russell Banks. Enfin, ça ne manque pas. Ce pays ne manque ni de poètes, si on voulait absolument un poète, ni de grands romanciers. Ils sont allés chercher un chanteur. C'était un bras d'honneur fait à la littérature américaine. Et ben, il leur a répondu lui-même par un bras d'honneur.
Voilà, exactement. Alors vous, Pierre Assouline, vous êtes membre de l'Académie Goncourt, dont le premier prix a été décerné en 1903 et qui, depuis, a célébré des écrivains... comme justement c'est par rapport au Nobel de littérature pour Dylan, des écrivains comme Marcel Proust en 1919 pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, André Malraux en 1933 pour La condition humaine, Romain Gary en 1956 pour Les racines du ciel, mais il a encore été avec Émile Ajar, Jonathan Little en 2006 pour Les bienveillantes, Jean-Paul Dubois en 2019 pour le livre formidable, mais j'adore son titre. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et le dernier Goncourt donc est allé à Hervé Le Tellier pour l'Anomalie. En France, le Goncourt, c'est le prix le plus prestigieux. Mais que représente le Goncourt dans les autres pays européens? Par exemple, il est systématiquement traduit?
Le prestige du Goncourt est inimaginable. Moi, je maintiens que c'est le prix littéraire le plus connu au monde. Attention, vous allez me dire le Nobel. Mais le Nobel récompense une œuvre. Le Goncourt récompense un livre. Le livre paru dans l'année. Donc, ce n'est pas concurrentiel. Mais je vais dans des librairies partout dans le monde. À chaque fois, je vois, évidemment, le Goncourt en bonne place, traduit, mais surtout avec une bande en français, prix Goncourt.
Ah oui.
Je me rappelle la plus grande nuit. J'étais dans
on ne verra pas à New York, Goncourt Prize.
Non, prix Goncourt. Mais déjà, c'est énorme. Dans une très grande librairie de Mexico, j'avais vu ça. Et ça m'avait rempli de fierté pour la France, pour l'exception culturelle française. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois qu'un roman est distingué par des Goncourt, il a une quarantaine de traductions.
Alors, parlons de la traduction des romans, justement, parce que ça, c'est un sujet assez épineux qu'on évoque très, très rarement. Par exemple, en combien de langues sont traduites vos romans, Pierre Assouline?
Oh, pas énormément, 7 ou 8.
Ce qui est déjà pas mal. Mais bon, si un traducteur n'a pas de réel talent littéraire et une perception très fine du style qu'il faut respecter, il peut tuer un livre, car il ne s'agit pas de traduction administrative, mais bien de littérature. Donc comment sont-ils choisis, les traducteurs?
Alors en France, c'est un des rares pays au monde, peut-être le seul, où les traducteurs est un métier très respecté, et un vrai métier. C'est-à-dire que les bons traducteurs, ce sont des gens qui ne font que ça. C'est leur profession, ils vivent de ça. Certains en vivent pas très bien ou mal, d'autres mieux. Donc il y a des conditions. Moi, je me suis beaucoup intéressé à leur statut, à leur métier, et aussi à leur façon de faire. Parce que je me suis battu beaucoup pour qu'ils aient un statut meilleur, une rémunération meilleure.
Oui, vous dites d'ailleurs que si un traducteur, s'il a une haute idée de l'œuvre à traduire et s'il la respecte au mieux, il est presque assimilable, le traducteur, à un co-auteur.
C'est ce que je pense. Et c'est pour ça que je plaide pour qu'il y ait le nom, en plus petit, du traducteur et la langue de la traduction sur la couverture. Alors, certains éditeurs le font de plus en plus, mais vous en avez beaucoup à qui j'ai posé la question, qui m'ont dit « Ah oui, mais ça encombre la couverture. » Je suis désolé. Dans le livre en question, pas un mot n'est de l'auteur.
Mais oui.
Tous les mots sont du traducteur, et pour cause.
Le récit, c'est... Mais après, il faut respecter, effectivement, les mots, il y a l'atmosphère, il y a l'ambiance, il y a 10 mots pour
mots
signifier
français,
quelque chose. Donc.
Les mots en français sont tous du traducteur.
Oui. Alors, vous dites... C'est un vrai métier en France. J'entends donc que, par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas du tout un métier.
Non, mais ni aux États-Unis, ni en Espagne, ni en Italie, partout où je m'y suis intéressé, dans la plupart, je dis bien la plupart des cas, sauf quelques exceptions évidemment, ce sont des professeurs d'université qui font ça en plus. Alors, ils sont mal payés, mais ils s'en fichent, parce qu'ils sont payés, par, d'autre part, par leur université, où ce sont parfois des journalistes ou parfois des écrivains qui ont besoin
donc
de boucler.
Donc, ça signifie que les lecteurs, à l'étranger, peuvent avoir une idée assez floue de l'œuvre.
Ça dépend. Alors, ça dépend des œuvres.
Si, justement, le traducteur ne respecte
oui,
pas.
Ça dépend des œuvres. Vous savez, pas oublier une chose. Hein. En France, on est très gâtés sur ce plan-là. Quand vous allez dans une librairie, la grande table des nouveautés, hein, y a de tout. Eh bien, dites-vous que 20% de ce que vous voyez dans les nouveautés est traduit d'une langue étrangère. Aux États-Unis, 1,5% de ce qui paraît est traduit d'une langue étrangère. Parce qu'ils estiment que le meilleur est en anglais, donc ce n'est pas la peine d'aller voir ailleurs.
Incroyable.
Et dans ce 1,5%, qui n'est quand même pas grand-chose, eh bien, l'essentiel est traduit du français. Donc ils ignorent la littérature allemande, espagnole, italienne, néerlandaise, ça ne les intéresse pas trop. Alors que nous, on a tout ça, 20%, c'est énorme.
C'est énorme.
Et tant mieux, et après ça se retrouve en livre de poche. Donc on a les plus grands écrivains, très souvent on voit en tête de la liste des best-sellers en France, des romans d'Umberto Eco, Peter Handke, de tous les grands écrivains européens, tout le temps.
Alors, restons en France et parlons encore de traduction, mais d'une manière un peu singulière, parce que, par exemple, j'ai presque envie de dire que le métier de traducteur s'arrête aux portes de la poésie. On ne traduit pas un poème de l'anglais au français, et inversement, il y a une métrique particulière. Comment fait-on pour la poésie ?
Eh bien, heureusement, on peut le faire, parce que sinon, eh bien, ceux qui ne... Je ne sais pas si vous parlez de russe. Moi non plus. Je ne parle pas le russe. Heureusement, vous avez notamment André Markovitch, très grand traducteur du russe, et notamment de la poésie et du théâtre russe. Et sans lui, on passerait à côté. Je pense que pour la poésie, qui est un cas particulier, vous avez raison Isabelle, c'est spécial, parce qu'il faut avoir la technique, et il faut avoir l'art de la poésie en soi. Je pense qu'il ne faut pas seulement connaître parfaitement la langue de départ, la langue d'arrivée, il faut être poète soi-même.
Voilà.
Voilà pourquoi ils sont rares.
Pierre Assouline, est-ce qu'un écrivain écrit forcément les livres qu'il aimerait lire ?
Non.
Non.
Ça, pour moi, c'est une formule qu'on entend souvent chez certains écrivains. Elles ne vaut rien. Comme souvent des formules destinées à éblouir, c'est de la blague. On n'écrit pas ce qu'on veut lire. Mais cette formule, vous savez... Elle court.
On écrit pour se découvrir aussi.
Ah mais chacun a ses raisons. Moi, j'aime bien les interviews. Vous savez pourquoi ?
Pourquoi ?
Ça me permet de savoir ce que je pense.
Et moi, j'adore les interviews. Vous savez pourquoi ? Parce que je découvre. Bon, où en est le manuscrit sur lequel en ce moment vous travaillez, Pierre Assouline ?
Pour l'instant, j'accumule. C'est-à-dire, je lis énormément.
Oui.
Je prends plein de notes, je collecte plein de documents. C'est la phase de l'enquête que j'aime beaucoup.
La question du sujet, vous n'allez pas me répondre. Bien sûr, c'est secret.
Je ne vais pas vous répondre. Oh, ce n'est pas un scoop ni rien, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt et c'est prématuré. Et je tâtonne encore, même si j'ai une forte idée de ce que je veux. Un roman, ce n'est ni un sujet, ni une idée, ni un thème, c'est un désir. S'il y a du désir, il y aura un livre. Mais s'il n'y a plus de désir, il n'y aura pas de livre.
C'est la chute magnifique, cette conversation. Donc en attendant le prochain livre, eh bien on peut plonger avec délectation dans la lecture du paquebot, le paquebot qui paraît chez Gallimard. Et puis nous vous rencontrerons donc au Festival de la Correspondance de Grignan dans la Drôme provençale. Ça sonne bien, je pense qu'il va y faire très bon avec une lumière magnifique. Grignan donc les 6 et 7 juillet avec le 7 juillet à partir de 19h, la lecture sur scène de la Correspondance de Churchill que vous avez adaptée. Merci infiniment Pierre Assouline.
Merci de votre invitation.
À bientôt.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.